Et bonjour, c'est mieux comme ça. Bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio Assa.
Radio Assa.
Votre nouvelle émission sur Radio Campus, les jeudis matins, de 8h à 9h. Une émission qui va vous parler de la musique japonaise, parce qu'ici autour de la table, on adore la musique japonaise et on s'est dit qu'on avait envie de la faire découvrir. L'idée à chaque fois, ce sera de parler d'un genre musical qui est un peu un genre soit emblématique au Japon, soit un genre qui n'existe que là-bas, qui est un genre important, en tout cas qui... où le Japon a eu une place importante dans ce genre musical-là. Et puis à chaque fois, on va essayer de découvrir ce genre-là, d'expliquer en quoi le genre consiste, diffuser des morceaux, bien évidemment, ce qui sera quand même le principal. Et puis voilà, passer un bon moment, finalement. Je suis accompagné de Raphaël, notre expert.
Expert, non, tu vas me faire rougir.
Qui va parfois nous jouer un peu de synthé pour nous expliquer des trucs, ça va être super. Et aujourd'hui, on va parler de City Pop.
City Pop.
Voilà, donc c'est un courant musical qui est apparu au Japon dans la seconde moitié des années 70, qui a connu une popularité importante au Japon tout au long des années 80. Et histoire de voir à quoi ça ressemble, on va s'écouter tout de suite un petit exemple, ça va être super.
Et on commence avec donc 4 AM de Taeko Onuki, qui date de 1978.
Okay.
voilà. Est-ce que c'était pas merveilleux un peu?
C'est bon ça, c'était Taeko Onuki et 4AM 1978.
Très bien. Du coup, peut-être qu'on peut commencer un peu à expliquer qu'est-ce que c'est ce genre musical. Peut-être que toi tu pourrais un peu nous expliquer ce que c'est. Parce que là, on l'a entendu un peu globalement que c'est de la musique très positive, que c'est de la musique qui donne envie de voyager. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses globalement ?
Eh bien, carrément. Eh bien, plus qu'un genre à proprement parler, la city pop, c'est plus un mood, c'est plus une atmosphère finalement.
Ouais, carrément.
C'est difficile, il y a beaucoup de caractéristiques différentes, c'est difficile de mettre le doigt sur un élément en particulier. On pourrait dire que c'est le mood des vacances d'été au Japon dans les années 80 globalement. Les vacances à la plage, tout ça, quoi. Comme on le voit sur les pochettes d'albums de cette époque, d'ailleurs. Sur les pochettes d'albums, on retrouve
Souvent, ouais. Il y a la plage, il y a la mer, mais c'est ça.
La plage et les cocotiers, ou alors les gratte-ciels de Tokyo.
Ouais, carrément.
Ça s'invente pas, c'est pas forcément compatible, mais...
C'est clair. Et pourtant, la musique est quasiment la même, ouais, carrément.
Pourquoi pas? Et pourquoi on n'irait pas faire un petit tour sur la plage, justement, avec Summer Breeze de Piper? 1983.
Let's go. Du coup, ça c'était Summer Breeze de Piper, et ça je peux le dire parce que moi je galère avec l'accent japonais, mais là c'est dans mes cordes. Voilà, du coup, ça c'était quand même très la plage, très.
Complètement.
Très ce mood où t'as envie de partir en vacances en fait, et en cet automne très morne, c'est super, on a besoin de ça dans nos vies. Mais du coup, l'idée c'est que la city pop, finalement, c'est pas juste de la pop. Ce qu'il faut imaginer, c'est que... qu'est-ce qu'il y a de pop là-dedans et qu'est-ce qu'il y a de pas pop ?
Qu'est-ce qu'il y a de pop et qu'est-ce qu'il y a de pas pop ? Eh bien, effectivement, c'est pas parce qu'il y a pop dans City Pop qu'il faut juste l'imaginer comme un sous-genre de la pop.
Ouais.
C'est en réalité une musique qui est très sophistiquée la plupart du temps et qui emprunte à des genres très divers comme le jazz, la funk, la disco... la fusion.
Ouais, carrément, ouais.
Et donc, ça va souvent être une musique assez complexe, en fait, puisqu'elle emprunte au jazz. La complexité des progressions d'accords.
C'est ça, c'est ça. C'est pas juste 2-3 accords qui tournent en boucle. Et de toute façon, là, on a pu se rendre compte avec les deux premiers morceaux qu'on a écoutés, mais moi, je suis pas très bon en musique, mais je vois bien que ça varie beaucoup.
Ah, carrément. Bah, petite démonstration, par exemple.
Vas-y, essayons ça.
Si, sur un morceau de pop assez classique, en général, on va avoir des accords simples, majeurs ou mineurs, composés de 3 notes, hein, par exemple. Okay. Ça, c'est des accords qui sont assez simples.
Ouais, très bien.
Alors,
ouais.
Ça ne veut pas dire que la pop, c'est pas bien. C'est pas parce que c'est simple que c'est pas intéressant. Hein,
ouais, c'est clair.
Mais sur de la city pop, on va plutôt être sur des accords. Des accords un petit peu plus riches avec 4-5 notes parfois.
Ouais, carrément. Ouais.
Donc, ça, c'est de l'harmonie qui vient du jazz.
Ok.
Voilà, c'est pour ça qu'on a cette sonorité un petit peu étrange, un petit peu mystérieuse.
J'adore.
Voilà,
j'ai envie que tu me joues du piano tout le temps.
Un peu cette sonorité city pop.
Ok, carrément. Est-ce que maintenant qu'on a un peu une idée justement de ces progressions d'accords et finalement de à quoi ça ressemble et pourquoi ça ressemble à ça, est-ce qu'on s'écouterait pas encore un autre morceau ?
Eh ben carrément. Offshore de Toshiki Kadomatsu, 1983 aussi.
Let's go. Thank you. de la musique qui rend nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue. C'est ce qu'on peut lire sous tous les commentaires, sous toutes les vidéos, dans les commentaires plutôt, des musiques de City Pop. Je pense que là, c'est l'exemple parfait pour ça.
C'est très fort hein, quand
ouais,
même.
Ouais, c'est clair.
C'est très fort.
Donc là, on vient d'écouter Offshore de Toshiki Kadomatsu. Je l'ai bien dit.
Toshiki Kadomatsu, c'est bien
ouais,
ça.
Super, en 1900, donc sorti en 1983.
Et oui, et tout à l'heure, donc, on parlait du fait que c'était une musique sophistiquée. Bon, là, on le voit bien, il y a quand même une maîtrise technique, de la virtuosité dans la façon dont les musiciens interprètent le morceau. Je pense au solo de saxo.
Ouais, ouais, carrément.
À la fin, on voit pas ça dans tous les morceaux pop à travers le monde.
Hein, non, c'est clair. Et ce qui est intéressant, bon, après, c'est peut-être un peu nos choix aussi, mais c'est des morceaux qui reflètent quand même bien ce que c'est la city pop. C'est souvent des morceaux qui durent bien plus de 3 minutes. Là, en l'occurrence, ils duraient plus de 5 minutes. Le premier morceau qu'on avait diffusé aussi de Taeko Onuki, il durait plus de 5 minutes. Et c'est quelque chose qui est assez courant, en fait, de faire des morceaux de 3, 4, 5 minutes. Ce qui, j'ai l'impression aussi, permet beaucoup plus de proposer d'autres instruments, tu vois, typiquement des cuivres en plus, de proposer voilà, des progressions harmoniques plus longues.
Petit à petit, c'est ça. Une ambiance ouais, et rajouter des arrangements, des couches, on appelle ça des layers.
Ouais, ok, ouais.
Des instruments différents. Et on voit aussi à travers ce morceau que l'esthétique de la city pop, c'est pas uniquement. Par exemple, du jazz
ouais,
avec un chant un peu pop à la voix.
Par-dessus,
là, on
ouais,
voit
clairement
qu'on emprunte carrément au vocabulaire d'autres genres, la disco,
ouais,
hein, avec ses cuivres et avec cette basse aussi qui slappe un maximum.
Ouais, carrément, ouais.
Donc le slap à la basse hein, pour nos auditeurs, c'est qu'on voilà, vient frapper sur la corde pour obtenir ce son caractéristique de cette époque.
Et du coup... Donc on l'a dit, il y a des cuivres et tout, et il y a surtout beaucoup de synthé.
Ouais.
Ça, c'est un peu un truc qui est quand même vachement caractéristique de, ouais, de cette musique-là.
C'est vrai que si on devait pointer du doigt, pour le coup, une caractéristique un peu unique de la city pop, ça serait ça. Ça serait l'utilisation des synthétiseurs,
ouais,
et notamment d'un modèle en particulier, qui
okay,
est le légendaire Yamaha DX7, qui est sorti donc, dans les années 80. Et beaucoup de musique de cette époque utilise des sonorités qui...
Ouais, qui empruntent à ce synthé-là, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est logique par rapport à l'époque où... en fait, si on regarde même dans la musique mondiale à côté, les années 80, c'est aussi le moment où, justement, il y a la disco,
Totalement.
Il y a même, tu vois, en fait, les débuts du rap, il y a tout ce qui est New Wave et tout. Et en fait, les synthés, c'est un truc qui est très utilisé.
Et
ils
ne oui,
sont pas utilisés tout le temps de la même manière, mais ça fait partie des trucs qui sont
oui,
importants.
Oui, mais c'est des nouveaux outils. En fait, cette innovation technologique, elle va permettre aux musiciens d'enrichir leur vocabulaire et de proposer des nouveaux sons, des nouvelles sonorités qui n'existaient pas jusqu'alors. En fait.
Ouais, carrément.
Et ça, c'est très intéressant.
Peut-être que pour continuer finalement sur ça, on peut en continuer de s'écouter un petit morceau, un peu un classique du genre, notamment parce que celui qui l'a fait, c'est quelqu'un d'important, mais on en parlera juste après. On s'écoute Sparkle.
De Tatsuro Yamashita, 1982.
pourrait continuer pendant des heures, j'ai l'impression. On retrouve bien un peu là toutes les caractéristiques bordel que t'as dit juste avant, et puis notamment il y a toujours cette utilisation du synthé, très souvent des cuivres, voilà, d'une voix très pop, c'est super, j'adore. Et donc là on vient d'écouter, parce que je ne l'ai pas dit, Sparkle donc de
Tatsuro Yamashita.
Exactement. Qui est un peu un des morceaux les plus connus de celui qui est un peu surnommé le roi de la city pop, finalement.
Oui, un des artistes les plus connus, effectivement,
ouais,
courant.
Et qui a produit aussi pour d'autres gens.
Qui est un des grands noms, si ce n'est donc le plus grand nom de la scène.
C'est le Jean-Jacques Goldman
de la city pop.
Exactement. Mais la question, c'est un peu, du coup, city pop, d'où ça vient?
Alors oui, c'est intéressant comme question. D'où est-ce que le terme tire son origine, déjà? Et en fait, ça apparaît en 1976 sur une publicité, en fait, pour faire la promotion d'un album de Terry Melcher. Alors, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Terry
Melcher. Pas du tout, j'avoue.
Eh bien, c'est pas très connu.
Ouais.
Mais c'est pourtant, dans le milieu de l'industrie musicale, c'est pourtant quelqu'un qui avait une forte influence à l'époque.
Ok.
Puisque c'est notamment lui qui a produit le premier album du groupe The Birds.
Ah oui, d'accord. Okay,
Mr. Tambourine Man,
si tu vois. Ouais, si, ça, je vois carrément.
Donc
ouais.
Voilà, donc c'est, il a eu aussi une carrière en tant que musicien après.
Ok.
Mais il est surtout connu voilà, pour son activité de producteur.
De producteur, ok, très bien.
Donc c'était quand même un des grands noms de l'industrie musicale de l'époque.
Ok, et, donc ça, c'est le terme City Pop.
C'est la première
là,
fois que le terme apparaît.
Ok.
Et ensuite, à la fin des années 70, le terme va petit à petit se démocratiser.
Okay.
Et la presse et aussi les maisons de disques
vont
s'en emparer pour faire la promotion de leurs albums avec une atmosphère sophistiquée, un peu urbaine.
Justement, évidemment,
et c'est là que le city de city pop prend tout son sens.
Oui, d'accord.
Puisque,
c'est un terme marketing,
cible,
presque,
c'est
en
un
fait.
Terme marketing. Ouais, c'est ça. Parce que le public cible, c'est plutôt une population citadine, un petit peu aisée. Voilà, c'est a priori à ces gens-là que ce genre de musique va le plus parler.
Ouais, carrément.
Ça va être beaucoup utilisé dans des clips et des, publicités.
Ouais, carrément.
À la télé, etc.
Et du coup, pour les origines du mouvement, parce que ça, c'est d'où vient le nom, mais donc il y a forcément un moment où il faut l'accrocher à une espèce de première musique, une première pierre à l'édifice.
C'est vrai, c'est vrai. Et il n'y a pas vraiment de consensus à ce sujet, en fait.
Ok.
C'est intéressant, parce que on peut pas retracer, on peut pas dire, ah bah lui, il a influencé toute la city.
Ouais, ouais, bien sûr. Bah, après,
c'est pas possible.
Comme
mais il y a
toujours,
quand même
en fait,
des noms
ouais, c'est ça.
Qui reviennent un petit peu plus que d'autres. Et ben là, je vous propose d'écouter justement Happy End, un des groupes pionniers.
Carrément. Et on va écouter quel morceau ?
On va écouter Kaze o Atsumete,
allez,
1971.
C'est parti.
Thank you.
C'est beau ça aussi, hein. C'est beaucoup plus doux.
Là, mais c'est beau. On s'imagine autour d'un feu de camp, à la plage avec une petite guitare.
Exactement, c'est clair. Et donc ça c'était, moi je vais pas réussir à le dire.
Kaseo Atsumete, voilà. De Happy End.
Carrément.
Et peut-être que ce morceau a pu sembler familier à certains d'entre vous. Et c'est pas un hasard parce qu'il fait partie de la bande originale du film Lost in Translation.
De Sofia Coppola
avec...
avec Bill Murray. Film qui passera à Cinéfac quelque part en décembre. Je crois que c'est le 13 décembre.
Ah, okay.
Parce qu'ils font une rétrospective Coppola de manière globale. Et du coup, il y a... putain, je sais plus, il y a 4 films. Il y a Sally et Lula, je crois que c'est ça le nom, un truc dans le genre, de David Lynch. Parce que dedans, il y a Nicolas Cage. Et en fait, c'est... le neveu de Francis Ford Coppola. Bref, il y a Lost in Translation de Sofia Coppola et il y a 2 autres films, j'ai oublié. Je digresse, mais voilà, allez à Cinéfac, c'est super.
Et ben, petit coup de pub au passage, ça fait voilà. Plaisir, hein, t'as bien raison.
Voilà, donc ça, c'est dans Lost in Translation, mais donc pourquoi on a écouté ça, finalement?
Pourquoi on a écouté ça? Parce que c'est vrai que ça contraste beaucoup, ouais, avec ce qu'on a écouté avant.
Ouais, c'est
on
ça.
On pourrait même dire que ça n'a rien à voir, en ouais, réalité.
En vrai, moi,
si ce n'est... Si on devait, ouais, trouver un point commun, ça serait quoi?
Bah, ce serait que ça chante en japonais.
Ça chante en japonais.
Ouais, ok.
Et c'est justement pour ça que Happy End est parfois considéré comme un des pionniers de la city pop.
Okay.
Parce qu'à l'époque de Happy End, donc, le groupe a existé de 1969 à 1972, donc c'est okay, assez c'est vieux
c'est...
quand même. Hein.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Et c'est antérieur au mouvement de la city pop.
Ouais, complètement.
À cette époque-là, la plupart des groupes de rock, de folk rock comme ça,
ouais,
chantaient exclusivement en anglais.
Ok.
Donc c'était
c'est un peu,
quelque chose de,
ouais,
vraiment nouveau.
Ouais, carrément, ok.
Et pour
ils
le coup,
dit, en fait, on a le droit de chanter dans notre propre langue.
Une des caractéristiques majeures de la city pop, on n'en avait pas parlé avant, mais ouais, c'est que le chant, c'est exclusivement en japonais.
Ouais, parfois, il y a des petits, voilà, y a des petites phrases, ouais, des petits trucs, vrai, en anglais, mais ouais, c'est vrai que c'est, bah, c'est très japonais. Et c'est même ce qui fait toute la sonorité de la langue. En fait, si c'était chanté en allemand, la city pop, je pense que ça rendrait pas pareil, quoi, avec tout l'amour que je peux avoir pour l'allemand. Hein, mais,
ça serait c'est... marrant de... Tiens, ça me donne envie d'essayer, tu vois, pour voir ce que ça fait.
Eh ben, c'est parti, non. C'est faux. Ok.
Mais donc, voilà, ce groupe Happy End, il a pas eu un succès considérable à l'époque.
Okay.
C'était pas forcément le groupe le plus connu. Mais par contre, l'influence qu'ils ont eue par la suite... sur la musique japonaise des années 70 et 80,
okay,
elle est au contraire très forte.
Ok, d'accord.
Parce que,
ouais,
c'est eux qui ont popularisé le fait de chanter comme ça
en japonais.
En japonais.
Ah ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent. Moi, je sais que à un moment dans ma vie, je me suis dit, hey, il faudrait que je, enfin, j'ai envie de découvrir de la musique japonaise et je fonctionne par top album. Donc, j'ai cherché des top albums de tel genre, de tel truc, et j'avais cherché genre top album de musique japonaise. Et Happy End, ça faisait partie des premiers albums qu'on m'avait proposé,
oui,
quoi.
Oui, celui-ci, voilà, en
celui-ci en particulier,
Kazemachi Roman,
ouais, c'est
il,
ça,
il ressort souvent.
Ouais, ouais, carrément. Alors que du coup, au final, c'était pas tant un... ça a pas été
Ah, ça n'a pas été
un énorme
hit
succès
au Japon,
en fait, ouais, c'est
non,
ça, ouais, ouais, carrément,
ça
c'est juste que c'est hyper
hit,
influent, quoi. Ok.
Mais ouais, ils sont parfois même surnommés les Beatles japonais.
Ok, carrément.
Pour dire l'influence qu'ils ont eue après par la suite sur.
Ok, stylé.
Sur la musique. Donc voilà, allez écouter cet album dans son intégralité.
Bah ouais, carrément.
On peut que vous le recommander.
Il y a peut-être un autre groupe qui a un peu une grosse influence pour la city pop.
Absolument. On va écouter ça tout de suite. Il s'agit de Sugar Babe.
Ok. Et le morceau, c'est...
Le morceau, c'est Natsu no Owari ni. Il date de 1975.
ことない人懐なすぎ去り言葉。
bien. On vient de s'écouter Sugar Babe avec le morceau
Natsu no Owari ni.
Exactement.
De 1975.
Est-ce que tu nous, peux nous en parler un petit peu de ce titre?
Avec plaisir. Donc, par rapport au morceau de Happy End, on voit que ça ressemble déjà un petit peu plus à la city pop au niveau des sonorités.
Ouais, complètement, ouais. Même du chant, ouais.
Et d'ailleurs, tout à l'heure, on avait parlé de Tatsuro Yamashita. On a écouté donc, le morceau Sparkle.
Ouais, complètement.
Et donc, avant de se lancer dans sa carrière solo, ce monsieur, Tatsuro Yamashita, faisait partie de ce groupe Sugar Babe.
Et oui, d'accord, oui.
Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont souvent cités.
Et oui, c'est ça.
Comme des pionniers de la city pop.
Ouais, complètement, parce que lui, il a fait partie de ce truc-là. Ok, très bien.
Mais ceci dit, on peut contester cet argument parce que c'est vrai que ça ressemble un petit peu, mais il manque, à mon sens, un certain nombre d'ingrédients.
Il manque l'été, il manque... Non, vas-y. c'est quoi les ingrédients qui manquent d'après toi?
Eh ben, oui, il manque, pour moi, il manque certains sons de synthé, justement.
Ouais, carrément.
Caractéristiques un peu des années 80.
Ouais.
On retrouve pas non plus les cuivres.
C'est vrai.
Ni la basse au synthé,
qui est quand même très,
disco,
très qui
etc.
même là à chaque fois,
donc,
en fait.
Donc, il y a quand même un certain nombre de caractéristiques qui manquent à la recette city pop. En plus de ça... Comme on l'a vu tout à l'heure, le terme city pop, il apparaît qu'en 1976.
Ouais.
Ce qui signifie que Sugar Babe et a fortiori Happy End
C'est sorti avant.
Sont antérieurs au terme même de city pop.
De city pop,
en fait.
Oui.
Ils ne savaient même pas que ça existait à l'époque.
Ouais, c'est ça. C'est clair. Ok. Donc effectivement, ça n'a déjà pas trop de sens en fait. Du coup, on a vu un peu en quoi ça consistait la city pop. On a vu un peu finalement presque les origines, en tout cas du terme city pop et les groupes qui ont été un peu fondateurs de ce genre musique-là, de ce genre de musique-là. Peut-être qu'on peut voir aussi. Comment c'est né vraiment ce genre-là d'un point de vue historique, de contexte historique?
Le contexte historique autour de la city pop.
Ouais, c'est
sûr.
Ça. Ouais.
Et alors déjà, je pense qu'il est utile de rappeler que dans les années 80, le Japon connaît un boom économique sans précédent.
Ok.
Vraiment, c'est un truc de fou. On peut comparer ça aux 30 Glorieuses.
Ok, d'accord. Ok,
par
très
exemple,
bien. Ouais.
C'est, le pays enregistre des taux de croissance records.
Ok.
L'industrie.
Est vraiment
va bien.
À son max,
c'est,
quoi.
C'est génial.
Ok.
Et ben, c'est à ce moment-là que le Japon a commencé à exporter.
Ouais. Ok.
À travers le monde.
Ouais,
plein
carrément.
De produits. D'électroménager, tout ce
ouais,
qui est électronique,
ouais. Okay.
Les lecteurs, les magnétoscopes, les lecteurs de cassettes.
Ouais, tout ce qui est console de jeu aussi.
Tout ce qui est console de jeu
ouais,
aussi,
carrément,
à la
ouais.
fin des années 80.
Ouais.
Puis l'automobile, on peut penser
ouais,
à
okay.
des, je sais pas, à Toyota,
Toyota
Mitsubishi,
ouais, carrément, ouais,
toutes
carrément.
Ces firmes-là
okay.
qui
ouais,
se
c'est
sont
ça.
Enrichies énormément
ouais.
pendant cette décennie. Elles ont profité du coup de ce boom économique.
Ok. C'est vraiment la mondialisation du Japon, ça commence à ce moment-là, quoi. Même
ouais,
les mangas,
ça commence
coup,
un peu plus tôt, mais là vraiment,
oui, mais
c'est
voilà,
un boom,
là ça explose en tout cas.
Voilà,
ouais,
c'est quelque chose de très intense. Et donc cette innovation technologique, ce progrès technologique, il s'étend aussi à l'univers de la musique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec des nouveaux outils, des nouveaux instruments électroniques, les synthétiseurs, les boîtes à rythme.
Ouais, carrément.
Tout ça qui va permettre de créer des nouvelles sonorités et de façonner l'univers sonore de l'époque.
Ok.
Cette esthétique si typique des années 80 qui nous paraît un peu kitsch.
Ouais,
aujourd'hui,
ouais.
ces sons de synthé là, qui résonnent un peu.
Ouais, ouais, carrément.
Mais il faut reconnaître que c'est ça qui a contribué à façonner justement ce son...
Ouais, carrément.
Caractéristique.
Puis en fait, comme l'autotune, dans 30 ans, ce sera un peu kitsch, mais en fait, c'est ce qui façonne la musique actuelle, en fait.
C'est les nouveaux outils qui sont réutilisés par des musiciens pour avancer, en fait, et proposer quelque chose de nouveau.
De nouveau dans la musique, quoi, ouais, c'est clair.
Voilà. On peut noter aussi, si ça c'est intéressant, en 1979, Sony, donc le géant, la firme géante Sony, commercialise au Japon le tout premier Walkman.
Ok, ça date de 79.
Ça date de 79, c'est vieux
c'est
quand même.
C'est antérieur à ma vie, du coup
donc
je m'en rendais
Walkman,
pas compte.
Donc le Walkman, qu'est-ce
mais ouais,
que c'est? Comme son nom l'indique, hein, c'est un lecteur portatif. À l'époque, c'était un lecteur de cassette, parce que c'était le support principal pour diffuser la musique. Et donc ça, évidemment, ça révolutionne la façon dont on consomme la musique.
Ouais, complètement, ouais.
Et la
79,
city pop,
ouais, vas-y, pardon, ouais.
La city pop, avec cette... cette légèreté et ces références aux vacances à la plage, etc. Ouais. Elle semble idéalement calibrée pour ces nouveaux Walkman, justement.
Mais oui, ok, ouais, parce que tu écoutes la musique dans la rue et tu.
Exactement, tu voyages, ou sur la plage.
Ouais, exactement.
Et
ouais.
Aussi les autoradios
ouais.
qui font leur apparition
à ce moment-là aussi.
À ce moment-là, dans les voitures des familles japonaises qui se rendent sur leur lieu de vacances.
Oui, oui, ouais, ok, carrément, ouais.
Donc, la City oui, Pop a aussi ça, profité
de cet essor-là,
de cette
en
avancée,
fait.
Ouais. De cet essor et de cette avancée technologique.
Ok, très bien.
Cette insouciance que l'on retrouve dans beaucoup d'albums de City Pop fait écho donc, à cette conjoncture économique de l'époque aussi.
Ouais, carrément.
Cette croyance que...
En fait, tout va bien et tout va toujours bien aller.
La croissance ne va jamais s'arrêter.
Ouais,
le progrès, tout ne peut que devenir meilleur.
Ouais, carrément, ouais.
Voilà.
Oui, puis c'est souvent des paroles légères, en fait, de ce que j'en ai compris, de la City Pop, de ce que j'en ai lu, parce que moi, je ne comprends pas le japonais.
Effectivement, oui. C'est... Là, pour le coup, au niveau des paroles, on est sur de la pop assez classique.
Ouais,
c'est
ça.
Ce qu'il y a de plus pop dans,
ouais,
la, City
dans
pop,
la City Pop,
c'est le chant.
Ouais, ouais. C'est ça.
Et la légèreté des paroles.
Ouais,
des
exactement.
Qui
mais
apportés.
Qui, du coup, va bien avec tout ce qu'on dit de c'est super la vie, et en fait, économiquement parlant, on va bien, et machin, quoi.
C'est ça. Mais malheureusement, parce qu'il y a un.
Il y a un moment où la City Pop s'arrête, en fait. Donc,
Oui. Oui, oui. Et au début des années 90, survient l'explosion de la bulle spéculative.
Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 c'est le coup
mais
dur.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est le coup dur. Alors bon, sans rentrer dans les détails, on ne va pas faire un ouais. cours d'économie.
Évidemment.
Mais c'est une crise économique sans précédent qui touche le Japon et qui plonge le pays dans un marasme pendant la décennie à venir.
Ok.
Ce qui vaudra d'ailleurs, aux années 90, d'être surnommé la décennie perdue.
Ah ouais,
au Japon,
ok.
Carrément, ouais. Donc là, c'est l'inverse, finalement,
ça
de
s'appelle...
tout ce qui s'est passé pendant
ouais, carrément.
Les 80.
Ça s'appelle la décennie perdue pour la musique ou pour tout de manière générale?
Pour tout,
quoi.
De manière générale.
Ah oui,
enfin,
d'accord.
On parle
okay.
plutôt du contexte économique.
Ok. Oui, c'est vraiment
rapport,
genre...
Voilà, cette opposition, justement, au okay. boom économique des années 80.
Ok, d'accord.
Et comme un symbole, ouais. comme un symbole, c'est justement à ce moment-là que la City Pop va commencer à décliner.
Ok, logique.
Avant de finalement tomber dans l'oubli.
Oui.
Pour un temps, du moins.
Effectivement.
Son atmosphère légère n'étant alors plus en adéquation
oui,
avec la gravité oui. des préoccupations de cette nouvelle ère.
Et ouais, complètement. Ok. Et peut-être que là, on peut s'écouter, on va dire, le symbole et surtout le morceau qui a permis tant de choses pour la City Pop.
Donc on vient d'écouter Plastic Love de Maria Takeuchi, qui date de 1974.
84. Ouais.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit.
Sinon ça ne marche pas.
84.
Ouais.
Et Maria Takeuchi, donc, qui est la compagne d'un certain Tatsuro Yamashita, dont
on a parlé
déjà
encore avant,
parlé,
à croire qu'il est partout.
Et qui est le producteur de l'album. Hein,
aussi,
si
ouais, c'est ça, exactement.
Voilà. Et en quoi, donc, ce morceau est si intéressant,
emblématique,
exactement. Spécifique.
Tout à fait. Bah, en fait, il y a un truc qu'on peut se demander, c'est en fait, qu'est-ce qu'advient la City Pop à l'heure actuelle ? Est-ce qu'on serait en train d'en parler en ce moment même si elle était vraiment tombée dans l'oubli?
Comme on l'a dit tout à l'heure.
Je ne suis pas sûr. En fait, la City Pop, ça a connu un renouveau à la fin des années 70 avec YouTube, notamment avec des années 2010, pardon, j'ai dit n'importe quoi.
Décidément, les années 70.
Ouais, c'est clair, ça nous perturbe. Mais donc, notamment avec ce morceau Plastic Love. Et donc, c'est même précisément en 2017 que ça arrive. Et c'est vraiment le principe de la magie d'Internet. En fait, il faut imaginer que si, à l'heure actuelle, c'est des TikTok qui peuvent faire des revivals de morceaux comme ça, ou, des séries comme Stranger Things qui vont remettre sur la carte Kate Bush.
Ah oui,
et
oui,
que,
Wednesday
voilà.
Avec Gugu Mug, par exemple.
Par exemple, voilà, c'est ça, exactement.
Très amusant.
C'est ça. Bah, là, il faut imaginer que, bon, les séries existaient déjà à cette époque-là et pouvaient aussi avoir cet effet-là, mais à ce moment-là, on va dire que la plateforme qui donne le plus de visibilité à des morceaux, c'est YouTube. Et c'est aussi parce que c'est la plateforme qui est un peu la plus utilisée pour découvrir de la musique, parce que c'est avant l'essor total de Spotify. Spotify existe déjà.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Et les gens commencent à s'y mettre. Hein. C'est-à-dire, ça existe vraiment, mais YouTube a encore une place vraiment prépondérante là-dedans. Et l'idée, en fait, c'est que... Les recommandations qu'on a de morceaux, elles sont faites à base d'algorithmes. Et dans les grandes lignes, hein, mais du coup, plus un morceau va être écouté, plus il va être recommandé par des gens. Il faut imaginer que de temps en temps, sur YouTube à cette époque-là, il y avait des espèces d'anomalies et des morceaux qui vraiment devenaient d'un coup une espèce de phénomène comme ça où quand tu écoutes de la musique et que tu découvres de la musique par YouTube, et bah, tu peux tomber dessus. Ça a été le cas par exemple avec Cigarette After Sex, qui est un groupe qui n'a absolument rien à voir, mais c'est un peu comme ça qu'ils ont été connus en fait. C'est parce qu'il y a eu une espèce d'algorithme YouTube qui a fait que, bah, super, ça
la
pop.
La magie
d'un
de l'algorithme.
Coup. Exactement, c'est ça. Et c'est aussi, et du coup, surtout le cas de la City Pop et du coup du premier morceau du genre qui a popé comme ça, Plastic Love. Le truc, c'est que c'est un peu flou la manière dont YouTube gère ses algorithmes, et donc on ne sait pas exactement pourquoi et comment ce morceau-là en particulier il s'est retrouvé propulsé comme ça. La théorie principale, c'est qu'en gros, à cette époque-là, il y a des genres sur Internet qui sont un peu en vogue et qui ont des communautés très actives. Il faut imaginer que c'est vraiment des genres musicaux de niche, mais c'est des très grosses niches et qui sont très, très actives. Quoi. Dans les courants actuels, on pourrait rapprocher par exemple de la City Pop avec tout un courant SoundCloud et tout. Et bah, à ce moment-là, il y avait un peu la même chose. Et c'est pareil, c'est comme l'hyperpop, c'est des courants qui vont prendre des codes musicaux de décennies passées et qui vont les triturer avec des outils contemporains.
À leur sauce.
Voilà, exactement, c'est ça. Et du coup, souvent, c'est des courants assez alternatifs, quoi. Donc en ce moment, on a l'hyperpop. À cette époque-là, on a la synthwave qui commence à avoir une place déjà très importante avec, par exemple, des groupes comme Carpenter Brut ou, dans une autre mesure, Kavinsky. Voilà, et on a à côté des courants un peu moins connus, mais qui ont quand même des bulles d'auditeurs fans. Et si tu tapes un de ces genres musicaux-là sur YouTube, t'es à peu près sûr de tomber sur une playlist d'une heure ou deux avec des morceaux emblématiques du genre. Et en l'occurrence, les genres musicaux qui ont un peu pété à ce moment-là et qui sont importants dans l'histoire de la City Pop, là en l'occurrence, C'est courant, c'est la Vaporwave et la Future Funk. Voilà, des noms bien chelous.
De Turfu.
Voilà, très exactement. Clairement. Et l'idée, c'est que bah, du coup, ils reprennent énormément de codes des années 80, un peu les mêmes esthétiques. Souvent, ça se moque un peu de la société de consommation à outrance de l'époque.
Les clips sont absolument lunaires, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, très souvent. Ouais, c'est clair. Et musicalement, du coup, souvent, ils samplent surtout de la funk et du disco des années 80. Et ils vont parfois aller piocher dans de la musique japonaise de cette époque-là, et après il la réinvente un peu. Donc maintenant qu'on a un peu tous ces aimants-là en tête, faut imaginer qu'en 2017, la Vaporwave, ça a déjà quelques années d'existence. Globalement, ça a commencé au début des années 2010, et donc en 2017, ça y est, ça devient un peu connu,
ça prend quoi,
voilà, ça a une vraie influence. Et du coup, la théorie, c'est que à un moment, quelqu'un a dû poster Plastic Love de Maria Takeuchi. En l'occurrence, un mec qui a un compte YouTube qui s'appelait Plastic Lover. Donc vraiment, il était fan de ce morceau-là. donc il l'a posté précisément à cette période-là. Et comme la vibe, elle peut sembler un peu similaire à de la Vaporwave, YouTube a dû proposer aux communautés qui écoutaient de la Vaporwave cette musique-là. La cover aussi, elle est très accrocheuse, t'as vraiment envie de cliquer dessus et de te demander ce que c'est, quoi. Et puis en fait, bah, ça a créé un espèce d'effet boule de neige. Le morceau est recommandé de plus en plus chez tout le monde. Et puis, bah voilà, en fait, ça devient ce que ça devient. Plastic Love, ça fait des millions de vues à ce moment-là. Y a d'autres morceaux de City Pop de l'époque qui commencent à être postés aussi sur YouTube,
et qui
commencent à bien marcher.
En voyant ça, ils vont se dire « Ah, mais j'ai ce CD chez moi de City Pop. »
Ouais, exactement.
Si les gens ont envie d'écouter ça, bah, je vais poster ça aussi.
C'est ça, ouais, exactement.
C'est
ouais.
Comme ça que de fil en aiguille...
Exactement, puis en fait, je pense qu'il y a eu des diggers, des gens qui se sont dit « Putain, mais j'aime trop ce morceau-là. » Donc, ils ont été digués.
Bah, Merci de City Pop.
Mais c'est ça, en fait, qu'ont été digués qui est Maria Takeuchi. Donc, qu'ont écouté l'album, qu'ont diffusé des morceaux de l'album. Ensuite, ils ont dû se rendre compte, bah, typiquement, que c'est Tatsuro Yamashita qui a fait... qui a produit l'album, donc en fait ils ont diffusé des morceaux de lui, et puis petit à petit en fait il y a eu un essor comme ça, voilà, si bien que ça a fait vraiment mais genre des millions de vues. Maria Takeuchi c'est redevenu une star. La vidéo originale dont je parlais là, elle a fait plus de 60 millions de vues. Ensuite, et en fait elle a été supprimée pour droit d'auteur. Et pour les 35 ans du morceau, Warner Music Japan, ils sont malins, ils se sont dit tiens, cette musique de l'époque, elle fonctionne, si on la ressortait pas. Et du coup, ils ont ressorti un clip, alors que le clip était absolument pas dispo sur YouTube à l'époque. Et le clip à l'heure actuelle, je sais plus à combien il est, mais il est pareil, à 20 ou 30 millions de vues, enfin, c'est assez indécent. Faut imaginer qu'en tout, ça fait plus de 80 ou 90 millions de vues. Il y a eu des tas de reprises de Plastic Love, il y a eu des mash-ups, il y a notamment un chouette mash-up avec Something About Us de Daft Punk, il me semble. Je sais pas s'il existe encore, mais à l'époque, il existait sur YouTube. Voilà, dans les grandes lignes, c'est un peu comme ça que la City Pop
est... Donc, ouais. On est à 45 millions de vues.
45, pardon.
Le nouveau
pardon,
clip j'étais, ouais. de Plastic Love.
Voilà, donc c'est juste indécent en fait. Mais donc voilà, dans les grandes lignes, c'est un peu comme ça que le genre musical a eu son revival. Qui pourtant, au départ, la City Pop, c'était vraiment, ça avait une portée que nationale. Maintenant, c'est international. C'est même presque plus écouté en Occident. Qu'au Japon finalement, même si j'imagine qu'avec le temps, bah, c'est aussi réécouté là-bas. Et peut-être pour te donner un peu une idée de ce qu'est la Vaporwave, bah, on va s'en écouter un morceau. En l'occurrence, c'est You Love Me As Me High de Young BAE. Je sais pas comment ça se dit.
BAE, je pense.
Ouais, voilà, BAE. And a wonderful evening of lovemaking. Voilà, on vient d'écouter Your Love Has Me High. Décidément, je galère avec ce titre de Young Bay. Voilà, qui est donc un morceau plutôt de Vaporwave, mais qui est l'origine, peut-être, l'origine story, pas ce morceau-là, mais en tout cas le genre musical, la Vaporwave, et donc la future punk qui serait les potentiels genres musicaux qui ont permis à la city pop voilà, de revival. On arrive doucement à la fin de cette émission. Peut-être que pour récapituler un peu, on peut revenir un peu sur tout ce qu'on s'est dit dans cette émission. Déjà, d'un point de vue musical, la city pop, qu'est-ce que c'est globalement ?
Eh bien oui, pour proposer une petite synthèse, on peut dire que c'est un genre qui emprunte au jazz, à la funk, à la disco.
Ouais, carrément.
Ce qui signifie qu'on va retrouver des instruments qu'on retrouve
dans le jazz, styles, la funk et, ouais,
donc,
et la disco.
Des cuivres, hein, notamment.
Complètement.
Une des caractéristiques principales au niveau du son, ça va être le synthétiseur, qui est devenu très populaire au cours des années 80.
Complètement.
On retrouve aussi la basse électrique ou la basse réalisée à l'aide d'un synthé.
Ouais, carrément.
La guitare électrique.
Très souvent, ouais.
Des fois, des boîtes à rythme aussi.
C'est vrai, ouais, carrément.
Et puis, le chant est exclusivement en japonais avec, de temps en temps, des petits passages en anglais.
Ouais, carrément. Mariate voilà. Katakeuchi, à un moment, qui disait « Don't
worry ».
Oui, dans
Plastic Love, voilà. C'est ça, voilà.
Ouais.
Mais sinon, c'est exclusivement en japonais.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la pochette d'album ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il nous faut ?
Qu'est-ce qu'il nous faut ? Bah, il nous faut soit la plage.
La plage.
La plage, c'est quand même un grand classique.
Un grand classique.
Ou alors des gratte-ciels, en fait. Les gratte-ciels, ouais. C'est super.
Et de préférence la nuit.
De préférence
et illuminé,
la nuit.
Parce
bien
que
sûr.
C'est quand même
voilà,
un peu
c'est
plus
ça.
Stylé.
Et de temps en temps, c'est marrant parce que ça, je pense que c'est. Bon, il y aurait tout un sujet à faire, mais quand il s'agit de chanteuse, souvent, c'est quand même un portrait de la chanteuse, quoi. Là,
ah, oui.
on s'éloigne des codes, mais ça, c'est sûrement un argument marketing en mode.
Ah, peut-être, ouais.
Voilà,
ça
je
vend
sais
mieux,
pas. Mais,
je sais
ouais,
pas,
voilà, peut-être. Mais en tout cas, la plupart des albums, effectivement, c'est la plage ou des gratte-ciels la nuit.
Voilà, donc au niveau de la chronologie. Hein, c'est la fin des années 70.
C'est ça.
Et tout au long des années 80.
C'est ça. Le premier morceau qu'on a diffusé, là, c'était 78. Donc ça,
ah oui, donc c'est quand même assez
ça.
Vieux. Hein.
Ouais,
c'est quand même
ouais,
assez
carrément.
Vieux. Et on peut dire que c'est un genre qui a vraiment vécu avec son temps, puisqu'il a su tirer profit des innovations technologiques de l'époque.
Ouais, c'est ça.
Que ce soit pour créer son univers sonore avec les nouveaux sons de synthé,
ouais.
Ou même pour se vendre en quelque sorte.
Ouais, carrément.
Parce qu'on sent que c'était quand même un petit peu calibré pour les nouveaux Walkman,
ouais, ouais,
etc.
Ouais. Et pour ces nouvelles personnes qui avaient un maximum d'argent, finalement. et puis, ce qu'on peut rajouter, du coup, c'est que... ça a été mort pendant très longtemps. Il y a d'autres genres musicaux qui finalement ont pris leur essor au Japon, notamment la J-pop par exemple. Et puis qu'ensuite, il y a eu ce revival à la fin des années 2010, notamment avec Plastic Love de Maria Takeuchi et tous les autres morceaux de city pop, dont beaucoup qu'on a pu passer. Taeko Onuki, je ne sais plus combien de millions de vues c'est, mais c'est énorme.
Sparkle
aussi. Voilà, de Tatsuru Yamashite. C'est Chita, c'est pareil, voilà. Et moi, je proposais qu'on conclue cette émission avec un morceau que j'ai trouvé en cherchant de la musique, voilà, comme ça, de Ito Mitoi. Wow, le morceau, tu pourras peut-être mieux le dire que moi.
Le morceau s'appelle Koiwa Omoi no Mama. Il
voilà,
date de 2012.
De 2012, voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, le courant musical de la city pop, il est mort en soi dans les années 70-80, mais il y a quand même des gens qui ont continué d'en faire. Là, notamment en 2012, qui du coup, c'est postérieur au revival avec Plastic Love. Et, non, c'est antérieur. Hein. Ça y est, je galère. Hein. Bref, c'est avant Plastic Love, mais c'est bien après. La période logique de la city pop,
donc c'est quand même de la city
ouais voilà c'est ça donc c'est quand même un genre qui a continué. Dans la prochaine émission, on va sans doute parler soit de l'électro des années 70 au Japon, qui est un peu importante puisque finalement ça aussi ça a un peu forgé la city pop, ou alors de jazz fusion, on s'est pas encore décidé, mais ça va être un des deux genres musicaux puisque ça fait partie un peu aussi de ce qui a pu forger là la city pop et qui sont deux courants musicaux très importants au Japon. Voilà, on va se retrouver une fois par mois, écouter de la musique japonaise et passer un bon moment. Et ça va être super. Et tout de suite, on va s'écouter donc...
Koiwa Omoi no Mama.
de Itomitoi.